orientale. J'ai réfuté totalement ce qui
se passe. Moi, c'est l'une de nos bâtis au Castanga. Je pense qu'on peut, en fonctionnant les deux, de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi et bienvenue dans Parole aux auditeurs qui vous proposent ce nouveau numéro. Le 27e sommet de l'Union africaine s'est tenu du 11 au 12 juillet à Kigali. Nous sommes là au Rwanda. À la clôture des travaux, les États membres ont décidé notamment de la création d'une taxe pour financer l'Union africaine et pallier ainsi au problème des ressources financières qui, en grande partie, proviennent de bailleurs de fonds extérieurs, dont l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. Selon vous, comment peut-on capitaliser cette décision et assurer ainsi l'autonomie financière de l'Union africaine? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081-890-7315 pour votre intervention en direct. Julie, Julie Dépito, Paul Baganyama et à la mise en onde de cette émission réalisée par Piro et Lameji, qui tient également le standard de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lugembo sous la supervision de Martin Sebou. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lugembo.
Il faut signaler que le budget de l'exercice 2016-2017 de l'Union africaine s'élève à 7 millions d'euros, et les 54 pays ne voudraient désormais compter que sur eux-mêmes pour se financer. Et voilà pourquoi les chefs d'État africains ont décidé d'appliquer une taxe pour financer donc l'Union africaine. Bon nombre se posent alors la question sur la nature de cette taxe et comment faire pour matérialiser cette initiative et sortir définitivement l'Union africaine de sa dépendance extérieure, car disons son budget est financé à près de 73% par l'Union européenne, comme je l'ai dit, des États-Unis, la Banque mondiale et la Chine, et cette organisation panafricaine lutte désormais, comme je l'ai dit, pour son indépendance financière. Alors Alphonse, vous avez décidé de participer à cette émission, à cet échange de citoyens. Vous êtes en ligne, bonjour et bienvenue.
Bonjour Pierre, bonjour à tous les gens. Pierre, si vous le permettez, en tout cas, nous présentons nos sincères félicitations pour le travail que vous rendez à la service, et plutôt au service de la nation congolaise. En tout cas, bon courage, continuez dans ce sens, cela est encore mieux si possible.
Pierre, par rapport merci à beaucoup, ça nous va droit au cœur, toute l'équipe est très satisfaite. Merci, Alphonse.
Nous disons que l'exercice des chefs d'État africains pour la résolution des différentes provinces qui rongent le continent noir sont à s'allier dans ce sens-là. Alors, Pierre, pour ne pas prendre assez de temps sur les antennes, et je voudrais donner quelques propositions. Alors, c'est justement pour répondre à la question du jour, donc comment capitaliser la décision de la création une taxe pour une autonomie financière de l'Union africaine. Donc, à cette question-là, je réponds en disant ceci. Premièrement, il faut d'abord évaluer tous les sommets de chefs d'État pour voir les retombées positives dans chaque pays membre afin de tirer des leçons du passé et permettre une bonne vision de l'avenir. Donc, tout cela doit passer par une bonne gestion des relations internationales. Deuxièmement, il faudrait aplanir les relations entre les États membres de l'unité africaine pour éviter de s'abstenir dans les votes de certaines décisions à l'interne, à l'instar par exemple de l'élection du successeur du président en exercice de l'UE, qui a été reporté à cause des divergences de fonds de vie, et même la réintégration du Maroc qui n'avait pas fait l'unanimité entre les pays membres. Troisièmement, il faut imposer, si possible, la paix et la sécurité quasi totalement aux États membres pour les encourager à s'investir plus afin de s'approprier toutes les initiatives sans parti pris, parce que si ces pays ont des différends entre eux, soit au niveau interne, soit au niveau externe, toutes les rencontres seront vindictivores, à mon avis. Et quatrièmement, pour que ça réussisse, il faut faire la réussite de ce sommet à tous les citoyens de chaque pays membre pour que l'essentiel de ce message de ce sommet-là soit connu, au motif que toutes les décisions Donc, tous ces décideurs-là, j'allais dire, reviennent sur les citoyens lambda qui a besoin d'une sécurité et d'une paix pour contribuer simplement à l'unité africaine à travers son pays. Et enfin, hier, si vous le permettez, nous suggérons à l'Union africaine de ne pas rompre brutalement avec les bailleurs de fonds qui sont l'Union européenne et les États-Unis, comme vous l'avez dit, pour ne pas...
Alphonse, nous avons tous suivi ces débats. Il y a cette célèbre phrase qui revient toujours, la main qui donne et celle qui ordonne. Et les Africains en sont conscients et l'ont expérimenté maintes fois à leurs dépens. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est comme un réveil du sommeil. Ils veulent prendre une direction de manière définitive.
Oui, hier, parce que comme je l'ai dit au début, là, il faut d'abord évaluer tous les sommets, depuis le début, depuis le premier jusqu'au 26e sommet. Alors, quelles étaient les retombées? Ça prouve à suffisance que hier, les pays africains ne sont pas en mesure de se prendre en charge eux-mêmes. Parce que ni c'était les États-Unis, ni c'était l'Union européenne, donc nous supposons que rien ne pourrait vraiment tenir debout. Parce que ici, nous voyons par exemple quels sont les pays qui sont en problème actuellement en Afrique. Alors, quelles sont les solutions que l'Union africaine donne à ces pays-là? Il n'y a absolument rien. C'est pourquoi nous disons que, de façon globale, si les pays africains eux-mêmes arrivaient ou parvenaient à gérer rationnellement les ressources naturelles, donc tenir compte de les ressources du sous-sol, même les ressources du sol, donc, ça pourrait vraiment leur permettre de prendre leur destin en main plus tard, mais pas maintenant.
Merci.
À ce moment-là, il faut ajouter aussi une bonne dose de volonté politique en Afrique, parce qu'en Afrique, on a tout. Donc, de façon globale, nous disons l'Afrique peut tout s'il y a la volonté politique dans un laps de temps.
Merci beaucoup, Alphonse. Quatre choses nous retenons dans votre intervention. La première, c'est qu'il faut passer à une évaluation de tous les différents sommets qui ont été organisés par le chef d'État à l'Afrique en ce qui concerne la gestion de relations internationales. Et deuxièmement, il faut appliquer aujourd'hui à planir les relations entre les États membres pour finalement créer une véritable intégration africaine ou panafricaine. Et troisièmement, vous avez sollicité en fait l'implication de l'Union africaine et de tous les États membres pour imposer la paix et la sécurité dans les régions et les sous-régions qui en fait que compte en fait l'Afrique. Et à partir de cette sécurité, c'est à ce moment-là qu'on éviterait d'avoir des sommets budgétivores, mais plutôt que des sommets qui toucheront des problèmes de fonds comme celui qu'on a organisé tout récemment parlant de la taxe. Mais vous avez souhaité qu'on ne puisse pas rompre d'une manière brutale, de manière un peu brutale, la relation avec l'Union européenne, les États-Unis ou encore d'autres bailleurs de fonds qui financent, comme nous l'avons dit, à 70% le budget de l'exercice de l'Union africaine chaque année. Merci beaucoup, Alphonse, d'avoir appelé de Harou. On va prendre Félicien qui est à Kinshasa. Félicien, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Alors, vous venez de suivre Alphonse qui est un tout petit peu sceptique en disant par exemple que l'Afrique ne sera pas capable de se prendre en charge maintenant par rapport à certains paramètres.
Oui, comment les Africains peuvent penser à être autonomes ou indépendants vis-à-vis de l'Occident ou des organisations internationales et au niveau de l'UIA, si déjà dans l'ère des États, ils ne sont pas indépendants, ils n'ont pas cette autonomie. Et moi, je pense que la difficulté d'abord de l'UIA à devenir vraiment une organisation comme l'Union européenne et tout ça, c'est surtout la mosaïque qui existe. Vous avez beaucoup d'États là qui sont des dictatures et avec des présidents des sports et quelques États ils convergent vers la démocratie et c'est difficile qu'ils s'entendent pour former quelque chose d'homogène. C'est ça la difficulté. Et je ne sais pas comment l'Union européenne et plutôt l'IA, l'Union africaine, peut réussir quoi que ce soit tant que tous les pays n'auront pas le même système de gestion, la démocratie ou la dictature, si vous voulez. Mm-hmm. Parce qu'ils ne s'entendront jamais de ce côté-là. Et il y aura toujours des perturbations. Là où il y a la dictature, il y aura toujours des problèmes.
Oui, mais Félicien, mais jusqu'à quand l'Afrique continuera-t-elle à pouvoir tendre la main vers l'extérieur? Je crois que c'est quand même une idée de pouvoir trouver un palliatif. Mais la plus grande question aujourd'hui, d'ailleurs, le prédécesseur l'a dit, comment y arriver? Est-ce qu'avec les atouts que nous avons à l'Afrique, est-ce qu'avec la configuration politique actuelle, serons-nous capables d'aller vers cette solution?
D'abord, il faut stabiliser les États. Ce sont des États qui forment l'Union africaine. Si les États eux-mêmes ne sont pas stables, si les États ne sont pas bien digérés, mais vous allez chercher à faire quelque chose de grand, comme l'unité africaine, qui peut réussir, je crois que c'est un peu difficile. Et d'ailleurs, ce n'est pas la volonté de l'Occident de voir l'Afrique réussir. Kadhafi est mort à cause de ça. Et beaucoup de présentateurs viennent de l'extérieur qui ne veulent pas que l'Afrique s'organise et qui ne veulent pas que les Africains vraiment soient dans des conditions de réussir leur développement. Parce que c'est là où les Occidentaux viennent puiser leur richesse, leur matière. Et si on les laisse maintenant s'organiser, on les laisse réussir. Mais c'est fini, c'est l'Occident qui sera en difficulté. De cela, il faut que des générations, des hommes qui viennent et qui changent les choses et d'une façon peut-être inattendue, mais faire ce qu'ils sont en train de faire, c'est justement ce qu'ils ont toujours fait, mais ce n'est pas pour arriver au résultat. Je ne crois pas qu'avec cette génération de chefs d'État que nous avons aujourd'hui, nous pouvons penser à réussir quelque chose en Afrique, parce que pour la plupart, ils sont eux-mêmes les fossoyeurs de leurs économies, ils sont eux-mêmes en train de tuer et de détruire leur pays, et je ne crois pas qu'ils puissent faire quelque chose pour l'intérêt de l'Afrique. Et le panafricanisme aujourd'hui, ça n'existe plus. Vous voyez comment les Africains sont en train de s'entretuer, de chasser leurs frères qui sont partis vivre chez eux, pendant que en Europe, au contraire, on est en train même de recevoir les Africains, de recevoir les gens qui viennent de l'Asie ou d'autres pays et pour qu'ils vivent chez eux. Mais chez nous, quand on vous chasse d'un pays, c'est comme un animal qu'on chasse. Et ce sont ces gens-là qui vont vraiment faire quelque chose pour l'unité africaine. Je crois qu'il faut encore attendre d'autres générations d'étudier le V, ça pourra arriver.
Voilà, alors Félicien, c'est vrai, nous avons retenu une chose, vous vous êtes posé tout sans doute la question de savoir comment les Africains peuvent-ils penser à cette indépendance dès lors que 53 ans après la création de l'OIA, la construction de l'unité africaine devait être un projet exclusivement politique et non plus émotionnel, et vous l'avez développé en illustrant donc par quelques exemples en matière de l'économie, en matière de la politique et puis et tant d'autres questions. Merci beaucoup Félicien. Maître Serge, vous êtes à Kamina. Bonjour et bienvenue.
Bonjour JR, bonjour aussi à tous les milliers d'auditeurs de la radio qui nous écoutent en ce moment.
Est-ce que vous pensez que l'autoprise en charge de l'Afrique sera-t-elle possible à ce jour par rapport à cette décision d'appliquer une taxe sur les importations?
En tout cas, je suis tellement ravi, je suis d'accord, clairement d'accord. Écoutez, vous savez, il ne faudrait pas toujours... Vous savez pourquoi ces gens-là peuvent imposer n'importe quoi? C'est parce qu'il y a la dépendance. Hein? Et la pierre exploitée, ils proviennent d'ici, chez nous en Afrique. Ils vont fabriquer des histoires pour se mentaliser les gens et commencer à tuer les leurs propres frères. Je suis en train de regretter d'abord, hein. Laissez-moi faire une petite rétrospective. Il y a eu une année où on avait interdit à un monsieur qu'on vient de tenter le président. On dit non, monsieur, il ne faut pas vous enrôler, nous saurons quoi faire. On a joué avec sa psychologie. Ce monsieur-là arrivé au moment des élections. On dit non, toi, tu ne peux pas postuler, tu n'as pas la carte d'élection. Je viens d'Occidentaux. J'ai suivi la fois passée là. Ils ont tué les Noirs là-bas aux États-Unis. On tue les Noirs, on ne parle de rien. Mais quand un Africain tue un Congolais, tue, là, on va dire non, c'est un crime contre l'humanité, tout ça, on n'a jamais condamné. Je suis en train de saluer d'abord les bravoures de Jacob Zuma. Il n'est pas allé dire au président français de laisser l'Afrique aux Africains, c'était déjà une phase qu'on connaît depuis longtemps. Vous savez, c'est à ça que vous présentez de saluer ça en 30 juillet.
Mais alors, vous ne craignez pas, Serge, comme tant d'autres personnes, qu'aujourd'hui, c'est vrai, avec la difficulté pour financer, parce que nous avons dit 70% financement extérieur et le 30%, en tout cas 28% à peu près de financement à l'interne. Mais aujourd'hui, avec d'autres pays qui traînent encore les pieds en ce qui concerne leur contribution au niveau des activités de l'Union africaine, vous pensez que cette taxe pourrait être vraiment une solution définitive?
Non, je ne crée rien. Moi, je sais que, en tout cas, et même c'est dans la terre, elle a commencé comment? On dit que l'appétit vient à manger, c'est petit appétit, on va faire son lit. On pourra vraiment y parvenir. Même si le président a échoué, nous, les chaînes d'aujourd'hui, nous allons mobiliser pour trouver une solution pour rapport à ça. Vous savez, ces gens-là, en tout cas, ils se cassent dans nos histoires. On prend une décision finale pour venir à l'autonomie des États africains. Ça, en tout cas, moi, je rejette catégoriquement. Je suis contre ça. Je salue cette réunion-là qui a eu vraiment atteint. Si, à moi, je dirais aussi là-bas, nous avons une solution par rapport à ça.
Merci beaucoup, Serge. Pour vous, en résumé, l'Afrique dispose d'un atout majeur que n'avait pas l'Europe lorsqu'elle s'est construite et qui a été derrière cette phrase célèbre qu'utilise souvent le président Kagame, deuxième vice-président de l'UIA, et dont le pays avait accueilli donc la réunion panafricaine, donc le 27e sommet de l'Union africaine. Merci, Maître Serge, d'avoir appelé des caminards. Nous accueillons également Maître Sylvain, qui est à Bounia, non, à Kinshasa. Maître Sylvain, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Oui, quel est votre avis, Maître Sylvain?
Oui, moi, je pense que l'initiative, elle est à saluer. Mais moi, j'ai dit dans mon commentaire que le chef d'État a mis la charrie avant le but. Ça veut dire quoi? On parle aujourd'hui on veut instituer une perception des taxes pour le fonctionnement de l'Union africaine. Mais cette taxe-là, on va la percevoir sur les mouvements internes des États, ou bien ça sera pour des mouvements interétatiques, donc entre États. Moi, j'estimais qu'au premier plan, l'Union africaine, elle a toutes les institutions, comme la Banque africaine de développement. Il y avait des initiatives comme le NEPAD qui avait institué des mécanismes de développement de l'Afrique. On devait commencer d'abord par financer la construction des routes, des infrastructures routières intercommunautaires. On pouvait même initier le pont ferroviaire. Après avoir initié toutes ces choses-là, on pouvait commencer à percevoir les taxes. Donc, on pouvait construire des routes intercommunautaires. Si aujourd'hui, même l'Europe que nous, dans leur vie aujourd'hui, ou bien les autres n'en veulent pas, c'est toute une construction, c'est comme l'intelligence, c'est la gradation. Donc, on commence à 1 jusqu'à 10, ou bien on commence à 0, 1. Mais si nous voulons venir prendre les choses au milieu, on vient de commencer.
Oui, mettre
ça. Construire des routes, ou bien des infrastructures ferroviaires qui vont permettre les trains de circuler des États d'un État à un autre. Le véhicule qui était un État à un autre, à ce mouvement-là, on pouvait percevoir des taxes. Mais quand l'heure arrive, c'est même le passeport qu'on a institué. Je crois que l'initiative, elle est bonne, mais elle a été prématurée à mon avis.
Oui, Maître Sylvain, vous ne pensez pas que là, ça s'appelle quand même un leadership, hein, au niveau de régions et des sous-régions, parce que si nous regardons la configuration panafricaine actuellement, on se rend compte que de l'autre côté de l'Afrique australe, il y a quand même des projets de développement. Vous avez des routes panafricaines, vous avez des échanges commerciaux qui sont développés et qui marchent plutôt bien. Alors aujourd'hui, au regard par exemple de notre sous-région ou encore de la région du Grand Lac, on se rend compte que nous sommes, en tout cas, nous accusons un grand retard par rapport à des projets panafricains. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vrai, le problème des taxes sur importation, cette taxe de 2%, poserait énormément de problèmes. C'est qu'il faut puiser ça par dans quelle économie est-ce que ce ne sera pas trop demandé à la population, une fois encore, qui est déjà du reste surimposé ou surtaxé?
Oui, je pense que nous revenons à la même chose au bout de moi. Je crois, comme je parlais des routes intercommunautaires, il faut que la SADC, par exemple, soit reliée à la CAC ou bien à l'IMOA, à l'Est, ou bien par rapport à ces routes intracommunautaires, le marchandise qui quitte une communauté ou bien une sous-région africaine pour une autre sous-région, par rapport à ce mouvement-là, on pourrait percevoir des taxes. c'est pour éviter un peu à surcharger les populations locales, les internes, comme vous le dites là, mm-hmm. et à se voir être perçus des taxes qui sont aujourd'hui, nous parlons aussi aujourd'hui de la surinflation fiscale, par exemple, chez nous en RDC. Alors, insister encore une autre taxe de ce genre-là, je crois que ça ne sera pas une bonne chose de ce jour.
Merci beaucoup, Maître Sylvain. Vous avez donné quelques pistes de solutions pour pouvoir aider réellement à atteindre cet objectif. On va prendre Timothée qui nous appelle de Bruxelles. Timothée, bonjour.
Bonjour, JR.
Alors, Timothée, vous nous avez écrit, vous avez déposé votre commentaire sur notre page Facebook en disant que plus d'un demi-siècle après les indépendances en Afrique, cette décision de chef d'État de l'UIA peut être considérée comme une avancée théorique. Que voulez-vous dire par là?
Oui, c'est une avancée théorique. Je tiens d'abord à saluer le travail que vous avez passé, JR, et saluer tout le monde, mes compatriotes qui m'écoutent. À travers la patrie de la paix, et spécialement ceux qui meurent à Béni, ceux qui sont à Congo, ceux qui sont partout, et chez moi, ils sont entourés dans une nouvelle province. En fait, c'est une avancée théorique, je disais, j'ai tout simplement parce que il y a des préalables pour arriver à mettre concrètement cette taxe en vigueur, et puis pour la faire respecter. Il y a des préalables, parce que, comme l'ont dit mes amis, mes prédécesseurs, il y a des sérieux problèmes, il faut dresser déjà le bilan. Il faut dresser déjà le bilan de ce qu'a été, nous sommes à la 53e année de la création de l'unité africaine. Et donc, il y a lieu, vous imaginez, hier, qu'il y a un papa qui, chez lui, le programme à manger, le programme pour ses enfants, est donné par le voisin, donc il perd une certaine autorité hein, sur sa famille. Et donc, de ce fait, il y a un sérieux problème. Moi, je dis que c'est une avancée théorique. Parce qu'actuellement, il faut considérer que l'Union européenne, là où nous sommes, même les États-Unis, ils ont leurs priorités. Ici, il y a un sérieux problème d'immigration, il y a un sérieux problème de terrorisme, il y a un sérieux problème dans le système social en Europe, qui est très lourd. Les populations européennes sont surtaxées. Et de ce fait, la priorité n'est plus l'Afrique, même si les États européens, nos partenaires, ont des intérêts importants. Mmh. Je reviens à la grande question de tout ça que j'ai dit que c'est théorique. Parce que tout simplement, il faut voir que les véritables problèmes, lorsque je vois la décision ici, je vois la décision de chef d'État, vous avez pratiquement 75% qui vont aller dans le programme de l'Union africaine, 25% pour des questions de paix et de sécurité. Pierre, la grande question est de savoir pour quelles raisons nous avons l'insécurité en Afrique et qu'il y a un sérieux problème de paix. C'est avant tout par rapport aux attitudes des chefs d'État qui sont en exercice. Lorsque nous prenons l'Afrique divisée par deux, vous avez la zone anglophone qui a une démocratie stable, dont on observe les libertés et les droits humains un petit peu respectés lorsqu'on a la bonne gouvernance dans ce pays, alors que la zone francophone sœur, là où nous faisons partie, a un sérieux problème de chefs d'État qui se permet de pouvoir. Et lorsque les populations veulent exprimer leur liberté, telle que consacrée dans les constitutions, telle que ces mêmes États l'ont ratifiée auprès des organisations internationales, vous avez la répression et ça crée de l'instabilité. Et lorsque vous avez l'instabilité, vous ne savez pas produire. Lorsque vous n'avez pas la paix, vous ne savez pas exporter, vous ne savez pas vendre. Il n'y a pas investissement. C'est tout cela. Donc, il y a un sérieux problème. Il faut commencer déjà par les éditeurs, je veux dire, les prédécesseurs l'ont dit. Il faut commencer déjà par établir le bilan. Et moi, j'avais proposé d'ailleurs. Je me dis, est-ce qu'on ne peut pas commencer par changer la classe politique africaine pour qu'ensuite on prenne des dirigeants qui peuvent prendre des engagements, pour qu'il y ait sérieusement de la démocratie, la bonne gouvernance. Dans tous ces pays-là, surtout francophones, la corruption est un mot de la gestion de l'État. Chaque jour, même dans mon pays, la République démocratique du Congo, nous avons dernièrement vu le conseil social, le Bambine, le conseil social, chef d'État en charge de la lutte contre la corruption. Il a tenu un peu de presse, il a avoué qu'en ce 18, il y a 5 milliards de dollars par an que nous perdons de la fraude fiscale, dans la corruption. Mais quelles sont les mesures que nous avons prises comme Congo, comme pays? Nous avons vu les États généraux de justice. Le chef d'État a dit lui-même, une expression, je le reproduis, la justice est une denrée rare en République démocratique du Congo. ça pose le même problème.
Oui. Alors aujourd'hui,
je reviens, je continue, je suis là, comme ça je suis là.
Oui.
Donc ça pose le même problème. Et en définitive, comme ça je passe la parole, en définitive, vous avez une autre zone, c'est ça. Est-ce que vous savez que la zone c'est ça, Valeur Monnaie en France, la Banque Centrale Française qui gère toute la devise de production des États, c'est ça. Donc c'est ça que l'Union Européenne aide nos frères de l'Afrique de l'Ouest à revenir sur, je ne sais pas, une monnaie commune pour qu'éventuellement ils puissent nous redéfinir.
Est-ce que Timothée, vous pensez, comme les autres, qu'aujourd'hui, c'est, nous vivons un réel problème de l'intégration, de leadership au niveau de l'intégration sous-régionale ou régionale, c'est ce qui pourrait être quand même une de solutions, ou encore le palliatif pour arriver à cette décision. Comment voulez-vous que l'UMEA, par exemple, ne puisse pas être en connexion avec le CSC ou la SADEC ou encore d'autres organisations sous-régionales? Mais parce que si nous regardons les tableaux en Afrique, on se rend compte que des initiatives ou des organisations sous-régionales au niveau de l'Afrique australe marchent plutôt bien avec des projets pratiquement concrets qu'aujourd'hui, par exemple, en Afrique centrale ou encore à l'Afrique de l'Est.
Oui, mais le problème n'est pas des structures, le problème n'est pas des décisions que l'on prend. Le problème, c'est la volonté politique. C'est cela. La volonté, c'est pas le fait du Brunei et de Kigali jusqu'au Centre-Ouest, passé par le Fébokashi et de, je sais pas, à la justice. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que même si nous faisons l'intégration, les recettes que nous allons récolter pour chaque État reviendra dans la caisse de l'État respectif. Et le problème réside au niveau de la gestion de la bonne gouvernance. Et il faut dire ici aussi que la taxe, ce n'est pas en elle-même faramineuse, ce n'est pas une taxe de milliards de dollars par État. C'est quelques milliers de dollars, ou un gratuit de 100 millions, ou 5 millions, je ne sais pas combien. Il faut revoir, ce n'est pas vraiment, ça ne pèse pas un milliard de l'argent au continent africain. Il y a de l'argent. Les États européens sont stables d'abord et avant tout à cause des richesses qui viennent de chez nous. Le problème, c'est au niveau de la gestion hier. C'est un problème de gestion. Lorsque vous prenez des gens qui arrivent aux fonctions, je ne vais pas insinuer qui que ce soit, qui arrivent en fonction, qui un an après, il y a 3 millions de dollars en banque. Parce que vous pouvez me dire la traçabilité de quelqu'un qui peut juste arriver à le pouvoir, pour pouvoir arriver à avoir des millions et des milliards.
Oui,
les chefs d'État sont responsables avant tout. Nous sommes de façon responsable de la situation chaotique dans laquelle se trouve l'Afrique, où nous avons trois quarts du fonctionnement qui vient de l'extérieur. Toutes les crises qu'on a en Afrique sont avant tout créées par moi, les Africains, ou par des gens
qui
manipulés.
Oui, avant qu'on accorde la parole à Charles et à Patience, Timothée, c'est vrai, vous avez fait des calculs tout à l'heure, je crois que pour aider les auditeurs qui nous suivent, en fait, l'Union africaine prévoit une taxe donc de 2 dollars, soit 1,8 euros sur les nuits d'hôtel, de 10 dollars sur les vols en partance ou en direction de l'Afrique, et une taxe additionnelle de 0,005 dollars par SMS échangé sur les continents. Ainsi, on peut anticiper des recettes de l'ordre de 2,3 milliards de dollars par an pour l'Union africaine. Donc, une affaire de 2 milliards.
Voilà, c'est une bonne chose. Alors maintenant, nous, la population africaine, nous, la population, nous sommes prêts à payer ça de plus, une fois de plus, à payer cette taxe-là. Mais quel est l'engagement des chefs d'État à respecter les constitutions? Parce que quand ils respectent la constitution, il y a une stabilité. Or, vous avez vu dans la décision, il y a 25% de cet argent qui sera débloqué pour sécuriser, pour la paix, pour la sécurité, pour la stabilité, pour la recherche de la paix. Les pays hors de combien, par exemple, les États qui n'appliquent pas la bonne gouvernance, s'ils ne veulent pas de la démocratie, ils parlent de démocratie, mais dans le fait, ils n'ont pas du tout de démocratie. Vous voyez combien dans la zone francophone, combien ils sont au pouvoir, plus de 20 ans, plus de 30 ans. Donc, si nous, population, nous sommes prêts à payer, quelle est la part d'engagement des chefs d'État pour respecter la Constitution et pour assurer la stabilité, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption dans tous les États? La question, c'est pour ça que j'ai dit, la décision est une bonne avancée, et le risque va nous redonner entre guillemets la dignité africaine, mais ça pose énormément de problèmes dans l'applicabilité, parce que les 45% de ces fonds iront dans les programmes, mais entre-temps, il y aura des déstabilisations.
Merci
beaucoup. Lorsque le chef d'État n'a pas encore intériorisé le fait, il faut réellement qu'il y ait alternant ce pouvoir, qu'il y ait d'autres visions qui viennent, qu'il y ait la bonne gouvernance, qu'il y ait liberté et droits humains. Vous avez vu la plus jeune femme au monde.
Je vais donner quelques exemples.
Une jeune congolaise qui a tout simplement dit respecter la Constitution. Vous avez vu une jeune dame qui se fait arrêter à un aéroport international. Mais le respect des droits humains dans mon continent pose énormément de problèmes.
Merci.
La chaîne d'instabilité, et lorsqu'il n'y a pas stabilité, il y a sérieusement un problème de progrès et même de développement.
Merci beaucoup, Timothée, d'avoir appelé de Bruxelles. Vous avez vraiment eu le souci de participer à ces débats que vous avez, en tout cas par votre message sur notre page Facebook, trouvé très 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 intéressant. Alors nous retenons beaucoup de choses, c'est-à-dire il faut quand même faire en sorte que la tendance soit inversée, parce que là il y a 75% qui doivent du budget de l'UIA qui part au niveau du programme et le 25% pour la paix, la stabilité, la sécurité. Et sans la sécurité, sans la paix, en tout cas, et surtout qui sont à la base souvent de la mauvaise gouvernance, et ça ne pourrait pas en tout cas permettre à ce que cette décision soit d'application. Merci beaucoup d'avoir appelé Timothée depuis Bruxelles, 081 890 6315, pour votre intervention en direct, et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Votre radio vous propose chaque après-midi 2 heures de découverte. De 13h à 15h, partez à la découverte des recettes et des femmes du Congo. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants et femmes d'aujourd'hui. Laissez-vous guider par les balades en zigzag. Un zeste de culture et beaucoup de musique. 13h-15h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Alors nous poursuivons parole aux auditeurs et nous entamons la deuxième demi-heure de cette émission. On venait tout à l'heure de suivre Timothée qui nous a appelé de Bruxelles, qui disait tout à l'heure que l'Union africaine doit finalement aider les États de la zone franc à obtenir leur indépendance monétaire, car toutes les devises de leurs produits sont gérées par la Banque centrale française. Et on doit créer une taxe dont les recettes vont être essentiellement dépensées pour des crises causés par eux-mêmes, les chefs d'État. Donc il faudrait commencer par stabiliser la région ou encore les sous-régions. Merci beaucoup. Charles, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, Gilles. C'est Charles Messalanguet à partir de Lubumbashi.
Quel est votre avis après avoir suivi
ceci. Oui. La décision ou l'idée est vraiment bonne d'une manière générale. Mais ma peur ou mon doute est que j'ai les compétences des dirigeants actuels ou des leaders africains, cela ne serait rien que des chantages ou de la théorie. À l'époque, on a eu des hommes forts, tels que les Kadhafi et autres, mais il n'y avait pas aucun soutien de la part de ses camarades. Aujourd'hui, il est mort même dans des conditions que tout le monde sait. De toutes les façons, ils ont raté, selon moi, ils ont raté leur ordre du jour. Et je me demande, je continue même à me demander, qu'est-ce que nous n'avons plus en Afrique, le PJR, pour dépendre toujours, chaque jour, ce qui se passe de l'extérieur. C'est vraiment de la honte. Cette question, en tout cas, elle n'est pas du tout bonne.
Voilà, merci beaucoup Charles. Patience, vous êtes avec nous. Kinshasa, bonjour, Patience.
Bonjour Gilles, bonjour à tous les auditeurs. Oui, Gilles.
Voilà, vous avez suivi Patience, également vos prédécesseurs. Là, on se rend compte qu'effectivement, il y avait d'autres priorités. Pourquoi pas soutenir des hommes forts de l'Afrique qui, aujourd'hui, développent des argumentaires qui vont toujours dans le sens de la recherche de l'autonomie du panafricanisme, au lieu, chaque fois, de proposer des choses qui souffriront peut-être par leur application.
Oui, je suis en train de qualifier d'abord la décision des chefs d'État d'une simple agitation. Je ne sais pas pourquoi ils sont agités, mais bon, je ne comprends pas. Si vous prenez l'exemple récemment ici, ce sont ces mêmes chefs d'État africains qui se sont décidés rapidement de quitter la CPI. Je ne sais pas, ils sont agités pourquoi. Qu'est-ce qu'ils ont vu des États-Unis, est-ce qu'ils ont vu de l'Union européenne aujourd'hui de mauvais? Je ne sais pas. Vous voyez que les mêmes comportements qu'ils sont en train d'afficher lorsqu'ils sont au pouvoir, et que les États-Unis et l'Union africaine les dit tout simplement, non, non, attention, c'est pas comme ça. Ils sont en train de s'apprécier. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont vu aujourd'hui en Afrique qu'on a eu déjà pour se suffire de nous-mêmes. Donc, je ne crois pas. Vous savez, dans la Bible, l'histoire d'un enfant qui avait sollicité à son père de lui donner ses richesses. Et quand vous avez vu vous-même les récoltes, les résultats que cet enfant avait récolté après avoir épuisé son enfant. Et les mêmes résultats que nous aurons encore après avoir peut-être cherché à nous, à dépendre de nous-mêmes. Nous chercherons l'un des jours de rentrer encore au même partenaire. Donc, je pense que cette décision, elle est bonne, mais en tout cas, pour le moment,
oui, parce que votre inquiétude est partagée par d'autres observateurs qui estiment qu'aujourd'hui, même l'indépendance de l'Afrique poserait problème à la longue, hein, au regard d'ailleurs de la question sur Burundi aujourd'hui, qui a été gérée du débit à la fin, ou disons, d'un moment à l'autre jusqu'à maintenant, par l'Union africaine, qui, du reste, n'arrive pas à résoudre définitivement cette crise.
Oui, c'est une décision des autocrates, cette décision-là. Ce sont les autocrates qui cherchent tout simplement à influencer certains chefs d'État. Mais en soi, l'idée, elle est bonne. Petit à petit, elle ira encore en avance. Mais pour le moment, en tout cas, c'est pas encore la bienvenue. Elle n'est pas encore la bienvenue, cette idée. Elle est bonne à la longue.
Alors, est-ce que vous ne craignez pas patience, parce qu'au regard de la décision qui dit qu'on prévoit une taxe de 2 $ sur les nuits d'hôtel, de 10 $ sur les vols en partance ou en direction de l'Afrique, et une taxe additionnelle de 0,005 $ par SMS échangé sur les continents. Je ne prends que l'exemple de SMS aujourd'hui avec tous les problèmes que nous avons connus, en tout cas par rapport au prix qui était revu à la hausse par les télécoms en République démocratique du Congo. Et ces problèmes qui continuent encore à défrayer la chronique, est-ce qu'aujourd'hui, avec cet ajout de taxes, ça ne sera pas une surtaxation?
Je voulais juste savoir un peu, je ne sais pas, selon l'état d'un hôtel, un malade qui quitte Kinshasa, par exemple, pour aller se faire soigner, je ne sais pas, en Afrique du Sud, doit réserver un 2 $ ou comment, je n'ai pas bien compris.
Un 10 $.
Vraiment, quelqu'un qui va se faire soigner, avec un budget bien déterminé. Est-ce qu'il y aura encore un moyen, une possibilité pour faire un réserve de taxes là à payer? Non, soyons quand même africains, soyons quand même chrétiens après tout.
Mais voilà.
Cette décision, c'est une décision des chefs d'État qui vivent aujourd'hui dans une duplicité. Ça, c'est une duplicité. On doit être à mesure de faire accélérer cette
décision. Mais quand vous dites duplicité, vous voulez dire quoi? Je ne comprends rien. C'est pour aider les auditeurs qui nous suivent en ce moment, les chefs d'État qui vivent dans une certaine duplicité. Vous voulez dire quoi par là?
C'est une mauvaise foi.
Merci beaucoup, patience. Bintou, vous êtes à Kinshasa. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour, Bintou.
Merci beaucoup, JR. Merci. Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour, Monsieur JR.
Quel est votre avis après avoir écouté, après avoir suivi religieusement vos prédécesseurs?
Bon, nous félicitons tout le monde, et particulièrement celui qui est intervenu à partir de Bruxelles. Bon, le chef d'État veut une autonomie financière de l'Union africaine. Bon, comme principe, c'est bien. Mais l'autonomie doit d'abord commencer sur le plan national. Si sur le plan national, aucun pays africain ne dispose pas d'une autonomie, comment cette autonomie va-t-elle se généraliser sur le plan africain? Pendant que sur le plan chaque pays, les budgets de chaque pays, regardez seulement les pays qui n'ont pas d'aide, pour lesquels l'Union européenne ou les banques, les institutions internationales ont coupé l'aide à ces pays-là. Quel est l'état de ces pays-là? Prenez l'exemple du Zimbabwe, prenez l'exemple du Burundi aujourd'hui, prenez l'exemple de plusieurs pays africains qui n'ont plus d'aide de ces pays-là. Je ne pense pas qu'ils vont y arriver. Ils n'y arriveront pas, puisque, comme principe, ça fait très bien. Mais vous savez que nous vivons dans la population africaine. Nous vivons en dessous du seuil de la pauvreté pour la plupart dans nos pays africains. Quel est le salaire d'un Congolais, d'un Africain qui travaille en Afrique? Il gagne combien? Alors, s'il faut ajouter encore d'autres taxes sur l'importation, sur les hôtels, tout ce qui arrive, c'est une manière seulement de faire souffrir la population pour rien. Il suffit que tous ces chefs d'État africains mettent fin à la corruption dans chacun de leurs pays et l'argent qui était détourné par la corruption, on doit le canaliser au financement de l'Union africaine et puis à la politique intérieure. Nous gagnerons beaucoup d'argent pour financer l'Union africaine et voilà, financer aussi la politique intérieure.
Merci beaucoup, Bintou. La politique intérieure a aussi besoin d'un financement adéquat pour arriver à répondre sur quelques investissements qui appellent le développement d'un État ou d'une nation. En Afrique, c'est vrai, il y a vraiment le développement à géométrie variable. Il y a d'autres pays qui sont suffisamment avancés. Raison pour laquelle notre auditeur de tout à l'heure, de Bruxelles, a proposé que à un certain niveau qu'on puisse aider les États de la zone franc à obtenir l'indépendance monétaire d'abord. Merci beaucoup. Prince, vous êtes à Kinshasa, bonjour et bienvenue.
Bonjour Monsieur Girard, je vous appelle à partir de Kinshasa et mon intervention résume à dire ceci. En fait, quand on parle déjà de l'Union africaine, nous voyons le rassemblement de tous les États africains. Et la bonne gestion pour trouver l'autonomie économique, cela doit résider d'abord à une bonne politique de gestion au niveau de l'intérieur de chaque pays membre de l'Union africaine. Vous allez vous rendre compte déjà que l'indice de développement de tous les pays de l'Union africaine est vraiment trop bas. Comment voulez-vous qu'on trouve une indépendance économique sur le regroupement ou sinon ce corps de l'Union africaine? Je vais appuyer ça par un exemple concret que je veux tirer de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas une bonne structure ou bien
je vais
dire ceci. Vous allez vous rendre compte qu'au début du mandat du Premier ministre Matata Ponyo, il avait mis en place un système d'évaluation des ministres. Et il avait évalué les ministres par rapport aux objectifs qui leur été assignés. Il y a eu des ministres qui ont eu 40%, 40%, 60% et tout ça. Ça, c'est une bonne politique de gestion. Mais après qu'il ait fait ces structures-là, ça n'a plus jamais existé, il n'y a pas une bonne continuité et tout ceci. Et si seulement chaque pays arrivait à avoir une bonne gestion économique dans le pays, cela va impliquer que quand ils seront représentés les gens au niveau de l'Union africaine, il y aura cette bonne politique qui va permettre à ceux qui...
Il y aura exactement l'effet domino. Merci beaucoup, Prince. Alors là, vous aviez voulu parler de ces contrats de performance qu'avait fait signer à chaque ministre le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Nous nous rappelons, en tout cas, lorsqu'il est arrivé pour son premier mandat à la tête du gouvernement. Vous avez donné ça comme exemple, mais tout en rappelant aux uns aux autres que l'indice de développement humain est très faible en Afrique et trop bas. Et ça ne pouvait pas aujourd'hui permettre aux États de développer des mécanismes pouvant créer leur autonomie et aussi éviter la main qui donne et cette main qui ordonne. Merci beaucoup, Prince, d'avoir appelé les Kinshasa. Arsène, vous êtes à Dar es Salaam. Merci d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. Bienvenue dans la parole aux auditeurs.
Oui, alors bonjour, et je remercie encore de m'associer dans les débats, et je suis fier par cette décision de notre président africain, mais quelque part, il y a des doutes que nous sentons concernant cette décision. Bon, parce que nous savons d'abord aujourd'hui, quand nous voyons l'organisation africaine, nous avons d'abord, il y a des politiques divisées, vous voyez la CDAO a l'air propre politique. Nous avons aussi notre Afrique centrale, l'Afrique australe, et quelque part, nous sentons que c'est au niveau de l'Afrique centrale, là où il y a presque tous les berceaux des malheurs. Bon, nous sentons d'abord, il y a la politique du Burundi par rapport au Rwanda, nous avons la politique de la Haïti à Tanzanie par rapport aussi au Rwanda, nous avons aussi la politique du Soudan par rapport à l'air division. Bon, je suis en train de sentir vraiment c'est difficile de résoudre ce qu'ils ont justement commis décision. Parce que les présidents rwandais, on les considère comme les vice-présidents, mais souvent ils travaillent pour l'obédience des pays de l'Afrique comme l'Ouest, donc l'Angleterre, les États-Unis, et vous-même, vous n'en avez pas entendu sur ce moment, il s'est décidé de voir les banques qui mourent, donc est-ce que vraiment, bon, ça sera possible, je suis en train de franchir pour mais vraiment, c'est une indication. Autre chose que je suis en train aussi de soulever, bon, concernant les billets de 2 milliards, quand même, si ces billets-là pouvaient nécessairement être produits, ça peut faire quelque chose. Mais, l'indépendance de l'Europe avec 65% de ces billets, ça fait quoi? Regardez notre pays lorsque nous étions adressés d'abord, c'était l'organisation de l'Afrique. Ça nous a tourné les dos. Il fallait dire la vérité. Les présidents de la République et notre gouvernement congolais avec l'organisation se sont même qui se sont battus pour chasser les 1-23. Nous avons assez de problèmes encore concernant la BNI. Et l'Union africaine, vraiment, je suis en train de sentir comme une doute. Mais ce que je demande, messieurs les journalistes, vous venez souvent à Kinshasa, vous sentez qu'il y a beaucoup de réalités. Pourquoi pas, nous les Congolais aussi, nous ne pouvons jamais faire une propre organisation d'équité dans cette Union africaine. Vous avez vu la
nouvelle merci beaucoup, Arsène.
Il ne faut pas quitter la Union africaine. Il fallait quitter la Union africaine pour se prendre la charge.
Voilà, voilà, merci beaucoup Arsène. Je crois que la procédure pour quitter une organisation à laquelle nous appartenons, hein, comme État membre, il y a toute une procédure en droit international. Et voilà, donc le Maroc, c'est un exemple qui était parti. Aujourd'hui, d'ailleurs, la question a été débattue lors du 27e sommet de l'Union africaine pour sa réintégration aussi. Il faut quand même dire ça ainsi. Donc le problème se pose aujourd'hui. C'est vrai, on adhère librement et on peut repartir librement, mais il y a toute une procédure en droit international pouvant vous aider à adhérer et à sortir calmement. Donc, je crois que nous avons fait suffisamment des émissions là-dessus. D'ailleurs, il y a deux semaines, lorsque nous avons abordé la question sur la sortie de l'Union africaine, des États membres de l'Union africaine, de la CPI, je crois que le professeur Tshibangu Kalala est revenu, en tout cas, à long et à large, sur cette question, sur la procédure de désengagement, ou encore de sortir de désengagement pris, de l'adhésion prise par les États. Merci beaucoup. On va prendre Maître Sonville qui est à Lubumbashi. Bonjour, Maître Sonville.
Bonjour, Monsieur Gilles. Bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio Capi.
Oui, quel est votre avis, Maître Sonville?
Oui, bon, c'est une initiative louable. Mais il faudrait juste chaque chose à faire un début. C'est par rapport aussi à l'autonomie de l'Afrique. Mais il y a des préalables pour y arriver, M. Gilles. J'estime que pour arriver même à effleurer cette tâche-là, il faudrait d'abord qu'il y ait équilibre, qu'il y ait stabilité au sein de l'Afrique. Puisque nous voyons que toute l'Afrique est entamée par des guerres. Or, s'il n'y a pas d'instabilité sur le plan africain, il n'y aura pas cette tâche-là. Cette tâche-là ne sera pas bien prélevée. Et les modalités même de prélèvement de cette taxe, comment est-ce qu'elle sera prélevée? Parce qu'on connaît pas aujourd'hui, dans le cadre de l'Union africaine, il y a beaucoup de pays africains qui connaissent des taxes pas obligées. Ça, c'est un peu ça. Or, pour y arriver, il y a un autre préalable qui peut s'ajouter à ce que je viens de dire. Il faudrait qu'au même les gouvernants, les chefs d'État africains puissent instaurer un régime démocratique partout pour permettre à ce que ces taxes-là qui est traçabilité par le prélèvement de ces taxes-là. C'est un peu ça. Au-delà de ça, monsieur Pierrot, je dirais que j'estime qu'avec tout ce que nous vivons aujourd'hui, il y a des fois, l'Union africaine ne permet même pas à mettre à la disposition des pays qui sont agressés une force africaine, puisque par manque de moyens. Est-ce que c'est seulement ces taxes-là qui suffiront pour que cette Union africaine soit autonome? C'est ça la question que nous devons encore nous poser. Et comment canaliser cette taxe-là? C'est un peu ça, monsieur le ministre.
Oui, mais Maître Sonville, parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, le budget de l'exercice 2016-2017 s'élève déjà à 707 millions d'euros. Mais alors, par rapport à la démarche proposée par l'Union africaine, si on arrivait à appliquer une taxe de 2% sur les importations des pays membres, cette taxe pourrait s'élever à 1 milliard d'euros par an. Donc vous imaginez que ça pourrait donner des moyens de sa politique.
Monsieur Pierrot, c'est une bonne initiative. Mais très, il faudrait que cette initiative soit effective. Tout d'abord, par rapport d'abord au pays, il y a des problèmes qui se posent au niveau du prélèvement des taxes douanières et qu'on soit beaucoup de corruption, beaucoup tout ça. Il faudrait d'abord que cet espace-là, soit cet environnement-là, soit aménagé pour parvenir à obtenir ce montant-là. Mmh. L'hypothèse où ce montant-là serait réuni. C'est une bonne chose, l'Afrique peut décoller. Mais comment canaliser ça? Puisque mon problème, c'est la gestion, la manière de récupérer, de prélever cette taxe. Il n'y a pas longtemps, il y a eu dans la réunion européenne, ils ont envisagé d'avoir un passeport africain. Mm-hmm. Il y a toujours des préalables. On peut encore soutirer de l'argent par rapport à la vente de ce passeport africain. Mais est-ce que ça ira? Puisque les chefs d'État africains aujourd'hui ne parviennent pas à respecter d'abord l'économie de leur pays. Est-ce qu'ils parviendront à se mettre à avoir une petite sérénité dans le prélèvement de ces taxes-là? Là où se pose encore des problèmes.
Merci beaucoup, Maître Sonville. Merci beaucoup, Maître Sonville, d'avoir appelé de Lubumbashi. On va rester dans la même ville que Peter, avec Pacifique, qui nous a également rejoint. Pacifique, bonjour.
Bonjour, cher. Et bonjour également à tous les auditeurs qui nous suivent pendant ce moment. La question qui a été relevée par les chefs d'État au cours de ces sommets, c'est une question de relations internationales. Nous saluons toute cette question, mais nous disons également à GR que c'est une question de pouvoir affirmer sa souveraineté. Or, les pays africains vont encore chercher à ce qu'on leur donne le pouvoir à l'extérieur de l'Afrique. Pensez-vous que ça pourra encore marcher? Cette question, ça sera un peu difficile. Moi, je pense qu'on devait d'abord commencer par asseoir l'intégration économique et aussi politique. Alors, on a créé plusieurs structures ici, ZEP, vous connaissez, libre-échange, tout ça, et zone d'échange de financement. Ça n'a pas marché, j'ai... Ça n'a pas pu marcher. Aujourd'hui, on vient de penser sur de nouvelles cartes ou des cartes supplémentaires, des $2, nuit d'hôtel, $10. Mais nous, en RDC, nous payons, pour quitter la RDC, nous payons $50. Pour nous déplacer à l'intérieur ici, nous payons $10. Avec $5 des cartes, je ne sais pas, statistiques et tout et tout. Moi, je trouve que c'est encore trop et ça vient encore. Ça ne va pas marcher. Kadhafi est mort sans soutien des Africains. Et pourtant, les mêmes Africains qui étaient censés les soutenir, pendant que Kadhafi disait que nous, Africains, devons être libres, indépendants, et nous devons avoir notre propre satellite pour l'indépendance sur le plan de la communication et tout et tout. Mais il n'a pas eu de soutien. J'avais suivi moi-même l'ancien président sénégalais Ouad, qui critiquait Kadhafi. Et je ne pouvais pas me rendre compte. Et aujourd'hui, rendez-vous compte, les présidents aujourd'hui qui est dans ce sommet-là, dans la plupart des cas, ils veulent pas quitter le pouvoir. Que pensez-vous? Vous pensez que ça marchera? Ça ne marchera pas. C'est un peu supplémentaire. C'est une façon simplement de pouvoir enrichir les chefs d'État et les chefs de gouvernement. Mais en soi, l'idée est bonne. Nous voulons aussi que l'Afrique soit souveraine. Nous voulons qu'on respecte aussi l'Afrique. Nous voulons que l'Afrique prenne également ses propres décisions. Que l'Afrique s'organise. Mais vous allez organiser comment? Dès lors que on va vous dire que le Rwanda, les États-Unis lui donnent autant d'argent. La RDC, on cherche même à couper le même financement de l'Union européenne aujourd'hui. Et tel pays, c'est la même chose. Vous pensez que ça sera possible? Je ne crois pas, cher.
Merci beaucoup. Oui, allez-y.
Je conclue en disant ceci, cher. Pourquoi les pays africains ne payent pas ou ne payent plus les contributions? Pourquoi il ne paye pas? Il ne paye plus.
Voilà. Avant d'entrer dans ce studio, je crois que sur le net, je vois d'ailleurs sur notre page Facebook les débats qui continuent d'ailleurs avec les auditeurs. Il y a d'autres qui ont même posé cette même question de savoir combien, contribue la RDC à l'Union africaine. Donc, c'est une peine perdue cette démarche de l'Union africaine parce que la RDC, dépourvue de moyens, ne saura même pas contribuer. Voilà, donc ça, c'est un point de vue vu d'un internaute qui nous a envoyé. Je suis en train de les lire, certainement. Merci beaucoup, Pacifique. Vous êtes à Lubumbashi. Arsène, on va terminer avec vous. Kikuit, en une minute, Arsène, quel est votre avis?
Merci beaucoup pour la parole, monsieur Givet. Je ne peux que rire cette histoire-là. Pensez un peu à nos ancêtres qui ont créé l'Organisation des Nations Africaines. Mais aujourd'hui, on peut les pâtir. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Parce que les gens qui sont là, comment ils sont arrivés là où ils sont? Comment ils sont arrivés? L'Afrique est dirigée par des rebelles. L'Afrique est dirigée par des dictateurs. L'Afrique est dirigée par des magouilleurs. Bien qu'ils fassent une bonne décision, que je félicite, mais l'application n'est pas si facile. Ça ne serait pas si facile, pourquoi? Parce que, au départ, nous sommes déjà à côté. Nous ne marchons pas correctement. Nous ne sommes pas honnêtes envers nous-mêmes. Aujourd'hui, il prend une décision, une belle décision. Mais qui va l'appliquer? Commencez d'abord à nettoyer devant vos portes avant d'aller reprocher les autres. 5 milliards de dollars pour toute l'Afrique, c'est quoi j'y ai, c'est quoi j'y ai.
Merci beaucoup Arsène. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Parole aux auditeurs. Merci à Paul Badianiam qui a assuré la mise en onde de cette émission, réalisée par Pierre et la Magie, qui est en même temps au standard de ce programme coordonné et présenté par J.R. Nguembo sous la supervision de Martin Sebou-Jangoui. On se retrouve demain dans un autre numéro de Parole aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bon suite des programmes sur la fréquence de la paix.